Bon, Bézat Hachem, aujourd'hui, donc, nous allons parler de Pourri. On n'appelle pas ça une fête. En français, on dit la fête de Pourri, mais en réalité, ce n'est pas une fête. Il n'y a en réalité que trois fêtes dans l'année. Pessah, Shavuot et Sukkot. C'est ce qu'on appelle des Moadim. Pourri s'appelle Yemei HaPourim, les jours de Pourri. C'est-à-dire que Pourri est à un niveau différent des fêtes de l'année, des trois régalim, ce qu'on appelle Shlosha régalim.
On appelle quand même Chakpourim, dit quand même Chakpourim.
Non, on ne dit pas Chakpourim. Ça c'est toi qui le dis, et les gens dans la rue le disent.
Il y a une chanson quand même.
Et alors
bah, si tout le monde l'a accepté, je vais
dire. Justement, il y a un
problème. Ça,
Nathan,
Nathan
Lacouche,
c'est ça.
Oui, vous m'envoyez le cours du Rabbi Rol, Bernard Chenin, vous dites où.
D'accord, donc les gens font des fautes, c'est comme à Tubishvat, Khaglaï la note, on ne dit pas Khaglaï la note, c'est Yom Rosh Hashanah la Ilan, ça n'a jamais existé à Ilan note, donc les gens font des fautes, mais vous êtes là pour apprendre les choses à la source, et donc Yemei HaPourim, dans la Megillah d'Esther, jamais tu verras Khag, Yemei HaPourim. Maintenant, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de savoir si c'est une fête ou si c'est un jour, c'est qu'il y a une essence. Chaque fête, on va l'appeler fête parce qu'on n'a pas de possibilité d'autres langages en français, chaque fête dans l'année arrive avec une force contradictoire. Je veux dire par là que à chaque fois que vous êtes face à un événement, vous avez une force qui va venir vous gâcher cet événement. Donc, Pourri va venir avec une force négative qui va essayer de massacrer la fête. Par exemple, la Pessah, la force contradictoire, c'est l'Égypte. Donc, tant que tu n'as pas combattu le Hametz et l'Égypte, tu ne peux pas sortir et profiter réellement de ton Pessah. D'accord ?
Mais de nos jours, ça n'a pas sens de dire ça, parce que de nos jours, il n'y a pas d'Égypte. De nos jours, quand moi je dis Pessah, il n'y a pas d'Égypte qui me dérange.
C'est sûr qu'il n'y a pas d'Égypte quand tu fais Pessah aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que tu dis dans la Haggadah de Pessah ? De Choldor, de Choldor, de Badar, Mirot, et Tatsmot, de Lille, ou Yatsam, et Mitzray. Tu dois considérer comme si toi, tu étais en train de sortir d'Égypte, ou comme toi, tu es sorti d'Égypte. Ça veut dire que l'Égypte, ce n'est pas seulement un pays. Bien que c'est une notion que tu dois combattre pour vivre ton nouveau Pessah de cette année différemment de ce que tu l'as vécu la semaine dernière ou l'année dernière. D'accord ? Donc toutes les notions existent. Et donc la leçon première, c'est que chaque fête arrive avec ce que les kabbalistes appellent sakpipa. Ce sont les forces. L'écorce, qu'est-ce qu'elle fait? Elle cache les fruits. Eh bien, chaque fête, elle a une écorce. Elle vient cacher l'essence même de la fête. Quelle est l'écorce de Pourri? Amalek. D'accord?
Alors, c'est 7 ou pas?
Non, j'ai dit il y a 5 secondes qu'en français, étant donné qu'on n'a pas d'autres mots pour parler, alors on parle de fête. Alors que Pourim n'est pas considéré comme une fête, ça s'appelle Yemei HaPourim. Il n'y a pas marqué Vechag HaPourim Aze Lo Yavor Ve Yemei HaPourim Ha'ele. D'accord ? Il faut aller à la source des choses. Il ne faut pas dévoyer et sortir de ce que la Torah nous dit, de ce que les Chachamim nous disent et de ce qui est écrit dans les sources des choses. Donc la force contradictoire à Pourim, c'est Amalek. Qu'est-ce que c'est que ce Amalek? Quand est-ce que Amalek apparaît dans l'histoire? À chaque fois que nous nous endormons, à chaque fois qu'on tombe dans une léthargie, ou dans un oubli, et en réalité, que se passe-t-il quand on dort? Et on perd la partie la plus profonde de notre être. On perd en réalité la Neshama. on perd l'essentiel de la Neshama, il ne nous reste dans le corps au moment du sommeil que ce qu'on appelle le Nefesh. Une partie infime qui s'habille dans le sang et qui maintient l'homme avec une certaine vie, mais qui est loin de sa véritable vie. La preuve, c'est que je peux te parler pendant ton sommeil, tu n'entends rien. Je peux t'ouvrir les yeux, tu ne vois rien. C'est bizarre, tout est là, et comme si rien n'était là. Mais ce sommeil-là, c'est en réalité une perte. Si je devais traduire ça avec les lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu, les quatre lettres du nom d'Hachem, c'est quoi? Mais c'est les lettres qui nous font vivre. On appelle ça Shem Havaya. C'est avec ces lettres que nous vivons. Au moment du sommeil, on perd les deux premières lettres, le Yud et le He. Donc c'est comme s'il nous restait, pendant qu'on est en sommeil, que le Vav et le He, les deux dernières lettres, qui sont responsables de notre survie, de notre vitalité minimale. Mais l'essentiel de notre lumière est dehors. Eh bien, c'est ce qui s'est passé d'une manière collective dans l'histoire de Mordechai et de Esther à Pourri. Et qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'au moment où cette essence quitte l'homme, immédiatement l'homme se trouve dans un monde éparpillé. Parce qu'il n'est plus dans son unité. Il n'est plus un. Il est comme mort. C'est pour ça que le sommeil est considéré un petit peu comme la mort. Parce qu'il y a une séparation des deux premières lettres avec les deux dernières lettres du nom. Donc la Neshama est en dehors du corps, l'homme ne peut pas vivre de cette manière. Donc c'est un éparpillement de l'être. C'est comme s'il était en train de mourir. Ça veut dire qu'il est dans un état d'exil. Donc le sommeil est un état d'exil. On appelle ça dans le langage des kabbalistes « siluk mochin ». On lui enlève les mochin, comme si ses mochin, ses cerveaux, sont partis, ont quitté l'être. Et il est éparpillé, il ne sait plus où est son unité. Donc l'exil est comparé à la mort. Quand le peuple d'Israël ne vit pas sur sa terre, il est dans un tombeau, dans un cimetière. Ok ? Le prophète Ézéchiel nous dit clairement que remonter en Israël, c'est sortir d'un cimetière pour revenir sur la terre. Réalité est très équivoque. Je vous sortirai de vos tombeaux. Moralité, l'exil est un éparpillement de l'être. Et qui nous révèle ce secret? Le mal lui-même. Haman. Haman Aracha, ce fameux Haman. Nous voyons son existence dans la Megillah d'Esther. Comment est-ce qu'il commence à parler de nous, du peuple d'Israël? Yeshno. Qu'est-ce que ça veut dire Yeshno? Il y a. Mais les Chachamim nous disent non. Il dort. Yeshno. Yashen. Autrement dit, Aman, la première définition d'Israël qu'il a de sa bouche, c'est il dort. D'après ce que je viens de vous expliquer, ça veut dire qu'ils ont perdu leur
Neshama.
Parce qu'ils sont éparpillés. Mais il sait, Haman, que dans la source, nous sommes un. Alors qu'est-ce qu'il dit? Yeshno, Am, Echad. Il est normalement uni, il est un, et là il est en sommeil. Et donc, s'il est en sommeil, quelle est la suite du verset? Mefouza ou Meforad Ben Ha'amim. Il est éparpillé. Il est complètement explosé. Il est séparé chez les nations du monde. Alors qu'il devrait être sur sa terre. Conclusion de ce Haman, qui représente maintenant qui? Amalek. Puisque Haman s'appelle, dans la Megillah d'Esther, Haman Ha'agagi. Il vient d'un certain Agag. Et qui était Agag?
Le roi d'Amalek.
Donc Haman, c'est en réalité un descendant de Amalek, de Agag. Et ce Haman va définir en réalité en définissant la situation du peuple d'Israël à cette époque-là, qui d'ailleurs ne porte pas le mot Israël, qui a perdu la notion de Israël, et comment est-ce qu'on va les appeler ? Les Juifs. Et donc dans la Megillat Esther, on va entendre parler de quoi ? Yehoudim. Bizarre. Et donc ce Haman Arasha représente donc le mal. Donc j'arrive à Pourim, moi aujourd'hui, 5779, dans deux semaines, Be'ezrat Hashem, et je sais qu'il y a un danger. Quel est le danger ? Amalek. Il est toujours là. Avec sa combinaison, version 2019. Vous avez compris ? À chaque fois, il change de vêtements. Il ne va pas venir avec les mêmes vêtements qu'il portait avant. Chaque génération, il se déguise en quelque chose d'autre. D'accord ? Et donc, si je ne sais pas déceler le Haman de mon époque, je risque de rater pour lui. Et juste de fêter ça comme si c'était un jour de quoi ? Où on va boire, on va déconner, on va faire n'importe quoi. Et c'est pas ça. Il faut comprendre le sens profond de pourri. Okay.
Est-ce que chaque année, Amalek se renforce ?
Le Badaï, il peut se renforcer si Israël se renforce. Au moment où Israël se renforce, et il faut savoir en réalité qu'est-ce qu'il veut, ce Amalek. On n'a pas encore touché le point. Mais dès qu'on va toucher le point, tu vas comprendre qu'à chaque fois, il va sortir de nouvelles forces pour combattre Israël. Parce que Israël avance. Et donc Amalek va essayer de renforcer ses armes. C'est comme les armements, c'est pareil. Ce que tu trouves au niveau matériel, c'est la même chose au niveau de l'esprit. On a de nouveaux armements, et bien nos ennemis se renforcent aussi et achètent de nouveaux armements. Donc on est tout le temps à un degré plus élevé. Le mal est donc, jusqu'à maintenant, comment est-ce que vous pouvez considérer le mal ? Qu'est-ce que c'est que le mal, par définition ?
C'est un manque de bien.
C'est quoi ?
Un manque de bien.
Oui, ne me dis pas des choses qu'on n'a pas dit dans le cours maintenant. De quoi on parle dans le cours ? Quelle est la source du mal ?
Ah, l'agrandissement de Amalek ?
En fait, c'est nous-mêmes endormis. Quoi.
C'est l'éparpillement de l'être. C'est quand vous n'êtes plus dans l'unité. Pour être dans l'unité, il faut quoi ? Il faut être un peuple. Il faut être uni. Il faut être sur sa terre. Donc on est dans un état très dangereux. Est-ce que les juifs là-bas, puisqu'ils s'appelaient les juifs, ils étaient religieux ?
Ouais.
Oui. Ils mangeaient cachère ?
Oui.
Oui. Et alors quel est le problème ? Ils faisaient Shabbat ?
Ils mangeaient cachère jusqu'au festin.
Jusqu'au festin ?
Après, au festin, ils n'ont pas mangé
cachère. Ils étaient Ve'ashtia Kadat El Ones. Même quand on leur prépare un festin, ils demandent que ce soit cachère. Il n'y a pas de souci, on t'apporte tout ce que tu veux, Bet Din de Shushan Abira. Ok ? Et d'ailleurs, si vous demandez à Rabbi Shimon Bar Yochai et à Alav HaShalom, quel était le problème donc ? Quel était le problème de ces gens-là ? De manger avec des goïs, c'était ça le problème ?
C'est du sensu du Beth Amikdash.
Et alors, c'est ça le problème ?
Un peu.
Non, le problème, c'est qu'ils avaient réussi à devenir à l'aise.
Il a fait, mais non. C'est ça le grave problème. C'est qu'ils se sont endormis en dehors de leur terre. Ils mangeaient cachère, ils mettaient les tefilines, ils observaient le Shabbat, ils étaient tranquilles, les mecs. Très religieux. Et donc, si tu demandes à Rabbi Shimon Bar Yochai dans la Gemara, quel était le problème à cette époque ? Qu'est-ce qu'il te dit ? Shenehenu miseudato shel oto racha. C'est-à-dire ?
Qu'on a kiffé de la seudato de ce rachaïm.
Ça veut dire qu'on était tellement tranquille qu'on nous a invité à un grand repas avec les rois de là-bas, avec les gens de là-bas, avec la communauté de là-bas. Tout était bon, tout était sur place avec un bon traiteur. Et toi, tu es en train de manger à la table des Goïm au lieu de manger à la table du roi sur ta terre. Et tu es en train de t'endormir. Et surtout, tu as une prophétie qui te dit que quoi ?
Que les 70 ans sont passés.
Il a fait que 70 ans sont passés et que tu dois rentrer immédiatement à la maison. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu restes là-bas. Tu continues de t'user. Tu es à Suse. À Suse, on s'use. Ça s'appelle une côte d'usure. Une côte d'azur. Ok. Les gens sont endormis. Ils continuent leur vie comme si de rien n'était. Alors qu'il y a un appel de revenir construire le deuxième Beth Amikdash. Il n'y a pas un qui bouge.
C'est pour ça qu'à l'époque de Pourim, la galoute n'était pas voulue par le
Borgo. Toujours la galoute, elle est voulue. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est voulue? Elle est nécessaire pour faire une correction. Si je te jette maintenant de la classe, c'est voulu par moi?
Non.
Oui. Mais qu'est-ce que tu fais? Normalement.
Ça.
Et c'est tout. Quoi? Justement, je veux savoir ce que tu fais.
Rien, et attends. Je sors, j'attends que vous me demandez de revenir.
Pas du tout. Non. Tu tapes et tu dis est-ce que je peux rentrer? Ça y est, je me suis calmé. C'est ça que j'attends de toi. Mais si quand je te jette de la classe, tu vas et tu ouvres un terrain de basket et tu ramènes tous les copains qui veulent glander comme toi, je t'ai pas demandé ça. Quand Akadosh Baruch Hu nous met en exil, qu'est-ce qu'il demande?
Il n'y a pas un moment où Akadosh Baruch Hu il a demandé aux Juifs de se soumettre à Nabucodonosor et d'accepter la réalité.
Je t'explique. Il y avait donc une prophétie, qui c'est qui parle?
Il a dit aux Juifs qu'ils étaient...
La prophétie, qui c'est qui l'a dit?
Akadosh
Baruch Hu, par la bouche du prophète, c'est la parole divine. Donc qu'est-ce qu'il dit? Que l'exil du premier temple, c'est combien d'années?
70.
Donc en réalité, qu'est-ce qu'il leur dit en fait? Qu'après 70 ans, il faut rentrer à la maison. Donc pourquoi ils ne rentrent pas à la maison? Voilà le problème. Donc ils sont assimilés, ils se sont endormis, ils ont perdu leur unité et ils sont dans l'éparpillement total de l'être. Okay.
Alors c'est pour ça que Rachid dit qu'il y a eu, quand il y a eu le coup, il a fait Exera, parce qu'ils se sont assimilés au mystère.
Ok. Mais voilà. Donc en réalité, Yeshno Amechad, Mefouzar ou Meforad, Ben Ha'amim. C'est pas Stam Mefouzar et Meforad, il n'est pas seulement éparpillé dans son être. Il est Ben Ha'amim, parmi les nations. Rabotai, si vous ne comprenez pas que c'est cette chose-là qu'il faut annuler à Pourim, eh bien vous allez refêter Pourim comme l'année dernière, sans comprendre l'essence même de ce jour.
C'est pour ça qu'on se déguise pour être différent des nations.
Claire. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous raconter? Pourim, c'est un jour sérieux. On va rire et on va danser, on va perdre un petit peu la tête pour une autre raison, mais ce n'est pas pour l'instant. Pour l'instant, comment j'arrive à Pourim? J'arrive à Pourim avec quoi? Avec la volonté de combattre qui?
Amalek
de ma génération. Si j'ai oublié ça, eh bien, Pourim, ça va devenir juste un carnaval. Il y en a un à Rio, il y en a un à Nice, il y en a un à Jérusalem. C'est pas ça. Chas v'shalom. Donc, je dois combattre cette clipa de Amalek. Et maintenant, donc, je dois savoir qui est cette clipa de Amalek. Et quelle est sa force? Qu'est-ce qu'elle veut, cette clipa? Cette écorce, cette négativité qui s'appelle Amalek. Donc, qu'est-ce qu'elle veut, d'après vous? Cette clipa de Amalek, c'est très clair.
Il faut savoir qui c'est.
Non, peu importe. Même au niveau de ton esprit, déjà.
Elle veut te garder en sommeil.
Parmi les nations. Elle veut te garder en sommeil pour ne pas que tu te réveilles. Elle ne veut pas que tu reviennes sur ta terre. Parce que si tu reviens sur ta terre, qui va mourir?
Amalek
lui-même. D'où est-ce qu'on sait qu'Amalek meurt quand on revient sur sa terre? Le Rambam nous dit, il y a trois halakhot quand on revient sur la terre d'Israël. Première des choses, se nommer un roi. Deuxième des choses, massacrer Amalek. Et troisième chose, construire le Beth Amikdash. Moralité. Pourquoi je peux détruire Amalek seulement si j'ai un roi? Or, est-ce que je peux avoir un roi en dehors de ma terre?
Non.
Non. Donc jamais je ne pourrai finir Amalek tant que je ne reviens pas sur ma terre. Et je ne pourrai jamais construire le temple tant que je n'ai pas détruit Amalek.
Est-ce qu'on est en train de le faire, détruire Amalek, vu que les Juifs sont en train de revenir
fait, là. Il y a fait, mais c'est ça l'importance. Donc quand vous allez rentrer à Pourim, il faut vous réjouir déjà pour l'essentiel de ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui dans votre vie. Quelle est la plus grande chose que vous ayez faite dans votre vie ? Exactement, que vous soyez ici aujourd'hui déjà. Vous n'avez pas conscience encore réellement de cette chose-là, ou peut-être que oui, mais peut-être pas complètement. C'est énorme. C'est énorme. C'est ça que Amalek ne veut pas que vous fassiez. Donc si tu as un Dvar Torah à dire à Pourim à table, au moment où tu vas manger et boire du vin, dis à tes amis, la chose la plus importante de cette journée de Pourim, c'est de combattre Amalek. Je ne suis pas venu ici pour manger, pour boire. Je vais au restaurant chaque jour de la semaine, ce n'est pas la peine d'attendre un jour dans l'année Pourim. Je suis venu aujourd'hui parce qu'il y a un ennemi qui est énorme en face de moi. Il s'appelle Amalek, c'est une clipa, une écorce, que si je ne comprends pas quelle est sa force, je perds mon temps. Alors dites-le à vos amis. Je suis venu comme un combattant aujourd'hui. Je combats qui aujourd'hui ? Amalek. Et comment est-ce que je combats Amalek ? En prenant conscience, déjà, que je suis un peuple qui n'est plus éparpillé, parce qu'on est en train de corriger l'histoire de Pourri, qui est sur sa terre et qui est prêt à combattre pour justement garder son identité, sa structure, et reconstruire Be'ezrat Hashem, le Beit HaMikdash. C'est pour ça qu'on est là. Si tu as conscience de ça, tu vas vivre ton Pourri différemment de tout ce que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que ce que je viens de vous dire maintenant, il y a une référence dans la Megillah d'Esther, parce que finalement c'est l'histoire, c'est là-bas que ça s'est passé. Est-ce que quelqu'un dit un mot qui nous montre que ce quelqu'un-là a compris le message ? Esther. Yafem. Qu'est-ce qu'elle dit à Mordechai, Esther ? Lech kenos et kol ha-yehudim. Qu'est-ce que ça veut dire ? Va rassembler, réunir tous les Yéhoudis, tous les Juifs. Pourquoi elle dit ça ? Qu'est-ce qu'on s'en fiche ? Parce qu'elle a compris que c'est là que se cache le problème. Parce que si tu n'es pas réuni, eh bien Amalek va te massacrer. Si tu ne reviens pas à l'unité de la nation que tu es, tu seras mangé, avalé par Amalek. L'erknos et kol ha-yehoudim. Donc on va sortir d'un monde de l'éparpillement pour revenir vers un monde de l'unité. Il y a fait l'heure. Et maintenant vous allez comprendre pourquoi toutes les mitzvot à Pourim sont complètement différentes de toutes les mitzvot, de toutes les fêtes que vous connaissez. Incroyable.
Elle dit à qui, Esther ? Elle parle à qui quand elle dit ça ?
À Mordechai. Va rassembler tous les Yéhoudis. Quelles sont les mitzvot de Pourim ? Elles sont complètement différentes des autres. Dans toutes les fêtes, toutes, les mitzvot, bien qu'elles soient données à la nation tout entière, mais la mitzvah, elle est pour qui ? Pour l'individu. Par exemple, manger la matzah à Pessah. Est-ce que je peux appliquer cette mitzvah tout seul ?
Oui.
Oui. Tranquille. Je mange, je me fais un repas tout seul, je mets la matzah et du maror. Je suis tranquille, j'ai fait mon Pessah. On est d'accord ? Bien fait. Soukot. Le loulav que j'achète, il est pour qui ? Pour moi. Donc je fais la mitzvah du loulav, d'Arbat Aminim, de la souka, pour moi. Est-ce que je suis quitte en ayant ma propre mitzvah, mon propre loulav, tranquillement ? Oui. À Pourim, c'est complètement différent. Toutes les mitzvot, écoutez bien, que nous allons réaliser à Pourim, sont des mitzvot qui ne peuvent pas être réalisées seules. Interdit. Quelle est la première mitzvah de Pourim ? Mishloach Manot.
Matanot Ha'Gelim,
c'est la deuxième.
Megillat Esther. On peut la réaliser seule si on
réalise. Megillat Esther, c'est quoi ? Kriyat HaMegillah. De quoi elle parle, la Megillat ? De ça justement, de ce rassemblement. Et les Chachamim nous disent que Mikra Megillah, sur la base, sur cette Gemara là, il est écrit, sur la lecture de la Megillah, il est écrit quelque chose, Berov Am, Hadrat Melech. Il ne faut pas lire la Megillah tout seul, il faut la lire dans toute la communauté, à tel point qu'on va renvoyer les élèves de la Yeshiva pour aller lire la Megillah.
Berov
Am, c'est-à-dire la gloire du roi, Hadrat Melech, Berov Am, c'est quand tout le monde est rassemblé. Donc tu n'as pas le droit de lire la Megillah tout seul. Il faut que tu la lises ensemble. Tu ne peux pas faire le inyan de Mishloach Manot, parce que si tu n'as pas à qui donner, tu ne peux pas te donner à toi-même. Matanot Levionim, quand tu vas faire des cadeaux pour ceux qui n'ont pas, eh bien tu dois avoir quelqu'un qui n'a pas en face de toi pour lui donner. Moralité, les mitzvot de cette fête, ou de ce jour, okay, on a dit on n'a pas d'autres mots en français, c'est en réalité un raisonnement qui est très, très, très voulu et très profond. C'est de réveiller la conscience d'Israël qu'il est un. Donc on va revenir à cette unité-là. Manger et boire, okay, c'est aussi dans ce qu'on appelle une Seouda. Et dans le Seouda, c'est quoi? C'est en réalité donner, et les Chachamim, le Bach dans la Gemara, Baït Hadash, va dire que quoi? Que dans la Seouda, qu'est-ce que tu fais? Tu dois servir aux autres. Donc tu vas encore une fois faire un lien entre les uns et les autres. Chacun va servir du vin à l'autre, chacun va donner à l'autre, va lui passer les plats. À tel point que pour lui, pour le Baït Hadash, il n'y a même pas besoin d'aller donner réellement Mishloach Manot. Même dans la Seouda, tu accomplis la mitzvah de Mishloach Manot. Parce que tu donnes à ton voisin un plat de riz, un poisson et quelque chose à manger. Vous avez compris? D'où l'importance de cette réunification dans ce jour de pourri. Et maintenant, on comprend la source du mot Amalek. D'où vient ce mot Amalek? C'est quoi Amalek? Bon, il s'appelle comme ça. Kadosh Baruch Hu n'a pas trouvé un autre nom, il l'a appelé comme ça.
Le peuple séparé.
Qu'est-ce que ça veut dire le peuple séparé? Où tu vois ça dans le mot Amalek?
Aram.
Hein? Amalek. Ah, mais le Khalek, d'où tu as sorti? Tu as rajouté une lettre là. Garde les lettres qui sont. Hein? Lac. Qu'est-ce que ça veut dire lac? Eh bien, les Chachamim vont jouer sur ces mots-là et vont nous dire lac en hébreu, look. C'est pas regarder. C'est la look et d'amam chez Israël. C'est que Amalek vient sucer le sang de la nation d'Israël. Donc, Am, il y a la notion de Am, lac. C'est celui qui vient boire le sang de la nation d'Israël. Donc il va couper, pas les individus, pas les juifs, au niveau individuel. Ils s'en fichent complètement. Il veut massacrer qui?
Israël.
Le peuple. La notion de âme. C'est pour ça que dans son nom, il y a âme. D'ailleurs, Balak, pour maudire Israël, qui va chercher?
Bil'am.
Qu'est-ce que ça veut dire Bil'am?
Bil'am.
Il faut annuler la nation, il ne faut plus qu'il y ait de âme.
Balak aussi,
et Balak et Bilam ensemble, c'est Amalek.
Bilam, Amalek, Amalek.
Et d'ailleurs, la source de Amalek, c'est Edom. C'est-à-dire Essa. Et donc, toute cette malédiction, elle est contre qui? C'est ça que je veux vous faire toucher du doigt.
Contre le peuple.
Donc, Pourim, tu es armé de quoi quand tu viens à Pourim?
De soldats, d'amis, d'Israël.
Du peuple. Tu es comme un envoyé du peuple. Si tu viens à Pourim avec cette force-là, tu as gagné ta journée. Si tu viens à Pourim comme un individu seul qui vient fêter, qui vient déconner, qui vient boire, qui vient manger, tu n'as rien compris à la journée. Rabotai, c'est très très important ce que je suis en train de vous dire maintenant. Beaucoup de gens ne comprennent pas le secret de Pourim. C'est un lâcher prise total, on va boire, on va vomir, on va se cracher chaleur. Tu ne comprends même pas quelle est l'essence même de la fête, si on appelle ça une fête, encore une fois, en français. Tu dois arriver avec cette arme dans la poche. Et donc tu dois revenir au sein de ta nation. Et c'est ça le plus grand combat. Et maintenant, on va comprendre un mahamar de nos sages, qui est ramené aussi dans le Magid Mesharim, Rabbi Yosef Karo, à la Vachalot. Kol Hamoadim Betelim, toutes les fêtes vont être annulé à la fin des temps. Sauf pour Purim et Hanouka. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça paraît logique.
Maintenant, ça paraît.
Maintenant, ça paraît logique.
On n'était pas une fête pour eux.
Hein? Encore. Je vous ai dit qu'en français,
il
n'y a pas un autre mot, je ne peux pas dire. Quel?
Il
n'y aura plus Pessah, il n'y aura plus Shavuot, il n'y aura plus Sukkot.
Il y aura Smaout.
Quel? Toutes les fêtes vont être annulées sauf Purim et Hanouka. Qu'est-ce que ça veut dire Purim et Hanouka? Quand je comprends l'essence de ça, tu vas comprendre qu'en réalité, c'est la même chose que Hatzmaout. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça veut dire? D'après vous, qu'est-ce que ça veut dire toutes les fêtes vont être annulées?
On va plus regarder l'individu, on va regarder que le peuple.
Toutes les fêtes sont là pour nous souvenir.
De quoi?
Du peuple, de l'individualité.
Non.
De la galoute. Et alors que Purim, c'est le moment où on se rassemble tous. Et donc si quand on sera tous libérés, eh bien, c'est qu'on sera tous rassemblés. Donc,
libérer de quoi? Il faut te libérer de quoi?
Libérer d'Amalek.
De qui? Qui sait qu'est-ce que c'est Amalek maintenant? Traduis-moi ça.
Il y a fait.
Tant qu'Israël n'est pas libéré des nations du monde et qu'il est indépendant sur sa terre, on ne pourra pas réellement arriver à la fin des temps. La fin des temps, c'est donc une seule mitzvah. C'est le retour sur la terre et le fondement d'une souveraineté. C'est incroyable, c'est ça. Et tout ce que je suis en train de vous dire, c'est pas des inventions, c'est pas parce que ça m'arrange. On n'a pas le temps aujourd'hui, mais si j'arrive aux écrits du Hari Akadosh, du Harizal, vous allez comprendre que c'est exactement ça dans les termes. Ça fait peur. Le Harizal, dans ses termes, nous dit ce que je suis en train de vous dire maintenant. C'est l'essentiel de pour eux.
Ouais. Tant qu'Israël n'est pas libéré des nations du monde, quoi.
Et qu'il n'est pas souverain sur sa terre, eh bien, Purim, c'est en réalité intitulé Purim et la Purim.
Il est important de pardonner. Il est important de pardonner à Purim plus qu'en tant qu'Hashana. Parce que de pardonner, ça veut dire se rassembler.
Pourquoi tu parles de Rosh Hashana? Tu aurais dû parler de qui est Purim? Comment est-ce qu'on appelle la grande journée? Qui est Purim? Ça veut dire qui est Purim en hébreu? Comme Purim. Ça veut dire que on a posé la question pourquoi on appelle Purim Purim et qui Purim qui Purim. La réponse c'est que qui Purim, c'est qu'est Purim, qu'est mot Purim. Autrement dit, on est allé voir Yom HaKippourim et on lui a dit, qu'est-ce que tu veux être quand tu seras grand? Il dit, je veux être Purim. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux arriver à la même intensité que Kippourim, mais en mangeant et en buvant. C'est pas la peine de jeûner, c'est pas la peine de me mortifier pour arriver à une certaine spiritualité, c'est pas normal. Donc Purim, c'est en réalité l'exemple. On veut arriver à une vie normale. Tu manges, tu bois, tu rigoles, tu es heureux, et tu arrives à un degré énorme. Quel?
Alors pourquoi il y a plein de religieuses qui ont étudié des années dans le monde entier et ne comprennent pas...
Pourquoi tu viens de me demander à moi?
Ouais, je sais rien.
Bah,
j'en parle pas.
Je suis le seul en face de toi.
Ouais.
Ben, va leur demander.
Non, je reste en Israël.
Bien fait. Va au prochain.
Mais.
Est-ce que tu as trouvé tes maîtres? Non. Pas encore? Alors cherche-les. Cherche-les. Tant que tu n'as pas trouvé un maître dans ta vie, cherche-le. Mais au jour où tu trouveras ton maître, ne le quitte plus jamais. Et ton maître va te donner ta réponse. Tu n'as plus besoin de dire et les autres, et celui-là, et pourquoi l'autre, et pourquoi l'autre. Tu as un maître. D'accord? Et ce maître-là, il est lié à la Torah ou il invente des choses? Il va être lié à la Torah. Il ne va pas t'inventer des choses, Chas v'Shalom. Ce n'est pas un clown. Donc, à partir du moment où tu vas te faire un rave, tu vas avoir la confiance, tu vas comprendre que ça vient d'une force solide. Ce n'est pas des paroles en l'air, tout ça. Donc, il y a ici quelque chose d'essentiel, c'est de comprendre cette notion-là. Une autre différence entre Purim et les fêtes. Dans les fêtes, il y a une mitzvah de
pour nous aussi.
Non. Non, il n'y a pas une mitzvah de Simcha à Purim. Parce que Purim, c'est lui-même
la Simcha.
La Simcha. Non, 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 écoutez bien, c'est un diouk dans les paroles même de la Megillah. Dans la Torah, il y a marqué qu'il faut se réjouir pendant Pesach, Shavuot et Sukkot, et spécialement Sukkot, Vesamarta, Bechagecha, il y a une mitzvah de Simcha. Et on va te dire, comment tu arrives à la Simcha? En buvant du vin et en mangeant de la viande. Comme ça dit la Gemara. Mais à Purim, comment Purim est décrit dans la Megillat Esther?
Comme
une
fête triste.
Comme non, pas du tout. Yemem, Ishtev, Simcha. Ils sont déjà ces jours-là des yamim de Mishne de Simcha. Ça veut dire que je n'ai pas une mitzvah de Simcha. Parce que je rentre dans la Simcha elle-même. C'est un diouk. C'est une précision extrême. Ça veut dire que je n'ai pas une mitzvah de me réjouir à Purim. La journée elle-même, c'est la mitzvah. Yemei Mishne de Simcha. C'est une journée des jours, parce qu'il y a au pluriel, parce qu'il y a Purim en dehors de Jérusalem, et Purim de Yerushalayim. Donc ça s'appelle Yemé, Mishte et Simcha. Comprenez le diouk? C'est comme on te dit, fais quelques exercices pour être en forme. Ou bien, tu vas rentrer toi-même dans un domaine où la forme, c'est le domaine. Tu n'as pas besoin de faire des exercices, ça fait partie de la journée. D'ailleurs, le Rambam nous dit dans les halakhot, Yemé Halel Vesimcha. Et la preuve en est, en parlant de Hanouka et de Purim, c'est que Hanouka, il n'y a pas de mitzvah de Seouda. Alors pourquoi le Rambam les appelle Yemé Halel Vesimcha? Parce que tout simplement, la journée de Purim et la journée de Hanouka, les 8 jours de Hanouka, c'est la Simcha elle-même. C'est-à-dire que les jours eux-mêmes portent en eux la caractéristique de la Simcha, par excellence.
C'est ça qui s'endort.
Il y a fait. Et ça, on va en parler tout à l'heure.
Dans Hanouka, on a battu Amalek ou pas? Il y a Amalek
dans Hanouka. Quel est le Amalek de Hanouka? Il ne s'appelle plus Amalek, il s'appelle Yavan, la Grèce. Je vous ai dit, chaque fête, chaque événement vient avec son
Amalek.
Ou son contre, son ennemi, sa clipa. Donc, si tu rentres dans une fête sans comprendre l'ennemi de la fête, t'as pas compris la fête.
Et de nos jours, de notre époque, la valette, c'est qui alors du coup?
La même chose. Tous ceux qui sont contre l'établissement du peuple d'Israël sur sa terre avec un gouvernement et une souveraineté, c'est Amalek. Donc aujourd'hui, qui c'est? Les Palestiniens. Donc j'ai un devoir
parce que tout le monde
de combattre tous ceux qui sont contre l'État d'Israël.
Il y a des juifs aussi qui sont comme ça.
Ouais, ça s'appelle des Amalekim dans leur pensée, ou des Mitiavnim dans leur pensée.
Donc qu'est-ce qu'on fait de la Hardout?
Encore une fois, tu peux accepter quelqu'un, tu ne vas pas aller le tuer. Mais l'ennemi, tu dois le combattre. Celui-là, Bezat Hashem, il fera tu vois.
Finalement, bon, est-ce que je peux comprendre que nos ennemis ont quand même une crainte terrible à Kadosh.
La faible. En vérité, je vais dire ce que tu dis en d'autres termes. C'est pas qu'ils ont une.
Donc, si le craignent, ça veut dire qu'ils acceptent qu'il existe.
Il y a fait. D'abord, ils ont une conscience de la force de l'État d'Israël. Et donc aujourd'hui, vous le voyez aujourd'hui, qu'est-ce qui est devenu l'antisémitisme? L'antisionisme. C'est tout. C'est très clair. Mais si c'est l'anti-sionisme, c'est-à-dire si le goy il est anti-sioniste, c'est pour qui qu'il est anti-sioniste? C'est pour que le juif prenne conscience que c'est exactement ça qu'il doit faire. Vous avez compris? Quand tu ne sais pas ce que tu dois faire dans ta vie, regarde ce que le goy veut que tu fasses pas. C'est tout. Aujourd'hui, on ne veut pas que tu viennes dans ton peuple, parmi ton peuple, pour fonder ton État. On va devenir anti-israélien. Donc toutes les nations du monde vont être braquées sur Israël pour ne pas qu'on lève la tête, parce qu'ils se disent maintenant, ils sont dangereux ceux-là. Il y a 70 ans, ils rasaient les murs. Et là, ils sont en train d'envoyer des fusées sur la Lune. Oh, dans 10 ans, ils vont nous manger. Et vous, vous dites, ah ben, c'est la vérité. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, ils ont peur de ça. Donc, s'ils ont peur de ça, moi, c'est exactement ça que je dois faire, travailler, augmenter. Donc, mettre le paquet sur ça. Une autre différence entre Pourim et les fêtes, on peut appeler les fêtes, il n'y a pas de distinction à Pourim. Il n'y a pas de distinction à Pourim. Il n'y a pas de riches, de pauvres.
La théorie est venue.
Non. Non. Tu viens de traduire Evion comme étant un pauvre. Alors traduis-moi ce que ça veut dire Ani. C'est un autre pauvre. Donc quand on parle l'hébreu correctement, on sait que Ani, c'est un pauvre, mais que Evion, c'est pas un pauvre. Qu'est-ce que c'est Evion en hébreu? Non, Evion, pas Evion, c'est avec un Aleph. Donc maintenant, tu vas apprendre un nouveau mot en hébreu, Evion, ça ne veut pas dire un pauvre, je sais que peut-être
tu as appris comme
ça. Aleph, Bet. Non. Yud, Vav, Nun. Ton prochain misérable.
Ton prochain?
Non. Evion en hébreu, dans la racine du mot, hein, c'est quelqu'un qui te demande. C'est tout.
L'argent?
Peu importe. Il vient, il te demande. Donc, il y a Matanot l'Evionim. Il n'y a pas marqué Mitzvah Tzedaka à Pourim. Il n'y a pas de Tzedaka à Pourim. Maintenant, tu comprends pourquoi ça ne s'appelle pas Tzedaka? Pourquoi ça s'appelle Matanot la Evionim? Parce que tu dois donner cadeau à qui demande.
On dit qu'on doit donner vraiment à des pauvres, sinon on ne fait pas la mitzvah.
Encore une fois, à celui qui te demande. Et d'ailleurs, il y a une halakha, kol ha-pochet yad, not nimlo. Ça, ce que tu dis au niveau des vrais pauvres et tout ça, c'est dans la mitzvah de la tzedaka. La mitzvah de la tzedaka n'existe pas à Pourim. Il n'y a pas de mitzvah de tzedaka à Pourim. Je suis désolé. On vous a peut-être embrouillé la tête, mais il n'y a pas de mitzvah de tzedaka à Pourim. Il y a mishloach manot, c'est-à-dire donner à manger, et matanot la evionim, et maintenant vous ne traduisez plus evionim comme des pauvres, mais ceux qui demandent. Donc tu dois leur donner un cadeau. Alors que le pauvre, c'est de la tzedaka qu'il faut lui donner, pas des matanot.
Et si personne n'a bien demandé alors?
Alors tu donnes. Tu vas demander, tu vas faire en sorte. Aujourd'hui, les gens, ils viennent, ils vont les uns chez les autres, il y a toute une trame qui se fait, donc tu vas donner. Et tu dois mettre toi-même dans une pochette une somme d'argent que tu vas donner à quelqu'un qui va te demander. Même si c'est après. Tu mets de côté. Et ça, c'est le secret. En medakdekin bema'ot pourim. Donc, c'est l'inverse de ce que tu as dit. On n'a pas le droit de vérifier si c'est vraiment un pauvre, si c'est pas vraiment un pauvre. Ça, c'est pendant l'année. Aucun rapport avec pourim. On est d'accord? À pourim, au contraire. Celui qui tend la main, tu lui donnes. Tu n'as même pas de compte à faire. Tu sais même pas qui c'est. Peu importe. C'est pas grave.
Et j'aurais fait la mitzvah de ma télé.
Il a fait, mais pas de tzedaka. Parce que c'est pas la mitzvah de pourim.
Il n'y a pas de mitzvah de
tzedaka. Il n'y a pas de mitzvah de tzedaka à pourim. C'est une mitzvah de tous les jours. T'as compris? C'est énorme. Donc, Evion maintenant, celui qui demande. Et c'est pour ça qu'il y a Ami et Evion. C'est pas pareil. Est-ce que vous comprenez qu'à Pourim, en réalité, il n'y a plus de différence? Il n'y a plus de riches, il n'y a plus de pauvres. C'est tout simplement des donneurs et des receveurs. Donc, à un moment donné, tu es un receveur, parce qu'on vient, on te tape à la porte. Te dit, pourim sa mère, shalom, comment ça va, machin.
Maintenant, c'est ce que aussi, c'est ce que Arash Berosh a fait aussi.
Qu'est-ce qu'il a fait?
Quand il a fait son festin, il a voulu faire son festin pour tout le monde de la même façon.
Et pourquoi il a fait son festin, Arash Berosh?
Pour se voir assimilé,
pour montrer.
Il vous manque l'essentiel.
Il voulait pas montrer qu'il était plus fort.
Non, il voulait pas montrer qu'il était plus fort.
Il voulait que tout le monde soit satisfait.
C'est pas chercher une femme.
Pas du tout. Quand on fait un festin, c'est qu'on fête quelque chose.
Oui, pour rien fêter qu'il a vaincu les.
Il a vaincu qui?
Il a vaincu tout le monde.
Il pensait que la délivrance était passée.
Il a fait, mais c'est ça l'essentiel. Quand est-ce qu'il a fait ce festin?
Trois ans
après son règne. Vayehi Beshalosh Shanim Lemalchuto.
Il ne se sentait pas roi jusque-là.
Il a fait, mais ça veut dire quand est-ce qu'il a fait le festin? Pourquoi il a fait le festin? Qu'est-ce qu'il a dit? On a battu qui? Akadosh Baruch Hu, pas les Juifs. J'ai battu Akadosh Baruch Hu, c'est moi le roi du monde. Et la preuve, ce qui devait être là-bas sera maintenant ici. C'est-à-dire, je vais m'habiller moi-même comme un Kohen Gadol. Et je vais me servir des ustensiles, comme tu as dit tout à l'heure, du temple. Ça veut dire, il est où le temple maintenant de Jérusalem?
Chez lui.
Il n'y a plus de temple de Jérusalem. Oubliez les mecs. Vous êtes foutus. Dieu a perdu. C'est moi le roi. C'est pour ça qu'il a fait une fête. Comprenez ce qu'il est en train de fêter? Et qui l'invite à cette fête-là?
Nous.
Ah, pour témoigner.
Ça veut dire, vous êtes mes serviteurs. Vous avez perdu vos vêtements. Donc qu'est-ce qu'il va faire avec les filles d'Israël? Il va les déshabiller. Et il va leur demander d'être des serveuses dans son festin. Quel jour? Le Shabbat. Nu.
C'est Vashti qui me demande.
Mais elles ont accepté?
Non. C'est ça tout le système. Il a déshabillé, il voulait déshabiller. Et quand sa femme, qui était aussi, il lui a dit, toi aussi, tu vas être comme les autres, je veux me montrer ta beauté, elle a refusé, l'a tué. Et là, toute l'histoire est en train de rouler pour arriver à Esther. Mais peu importe. Comprenez ce qu'il veut montrer. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas pour faire honte aux femmes de les déshabiller. Quand on déshabille quelqu'un, ça veut dire qu'il a perdu quoi?
Ses
vêtements, donc il n'est plus porteur d'un message. Donc Israël, qu'est-ce qu'il a perdu? Son héritage, son vêtement, sa structure, son état, sa souveraineté. Mais
c'est ce qu'il a cru.
Sa atzmaout, c'est pour ça qu'il a fêté. Vous comprenez? Donc face à ce festin, qu'est-ce qu'on fait nous?
Ça c'est
un autre festin. Le festin de quoi finalement? De quoi? Pourquoi on fait un michté maintenant, vous comprenez?
Pour compenser celui d'avant.
Pour compenser, mais en faisant quoi? Parce qu'on a quoi aujourd'hui?
Israël.
On a un gouvernement, on a une structure. On a combattu ce roi qui pensait qu'Israël était mort. Donc on va faire un tikkun, un vrai tikkun. Donc posez la question, vous allez voir que les gens ne le savent pas. Pourquoi vous faites un festin pour lui? Les gens ne le savent pas. Et c'est pour se saouler, pour machin, pour être content, pour être en famille, pour être avec des copains, mais c'est pas ça. Moi aussi je viens fêter quoi? Le contraire de ce qu'il a fêté lui. Vous comprenez?
Avant 1948, problème, ça voulait rien dire.
On y arrive. Il y a un problème, tu as bien fait toucher ça. Ça veut dire qu'en réalité, la fête de pourri. La véritable fête de Pourim, c'est quoi? Pourquoi on ne dit pas le Hallel à Pourim?
Parce qu'on n'y était pas des Avdé
Hachem. Pourquoi on n'était pas des Avdé Hachem? Dans le Hallel, qu'est-ce qu'il y a marqué? Alléluia, Allélu, Avdé Hachem. Mais comme on est des Avdé
Achajarosh,
c'est ce que tu dis. Moi, je peux l'appeler aujourd'hui Avdé Macron. Avdé
Trump,
Avdé qui tu veux.
Poutine.
Tu n'es pas le Eved Hachem sur ta terre. Donc tu es en train de faire Shabbat, tu mets les tefillin, mais tu es le serviteur de qui? De tous les présidents du monde entier dans lesquels tu habites, chez lesquels tu habites. Donc de quoi tu parles? De quoi? Qu'est-ce qu'elle fait que tu es en train de faire? Vous comprenez que ça n'a pas de sens? Tu fêtes soi-disant une fête qui te redonne l'indépendance pour remonter sur ta terre, construire le temple, avec ton gouvernement, tes enfants, tes frères, tes sœurs, et tu es en train de me fêter un pourri paumé en Pologne. Mais qu'est-ce que tu fais?
Ça veut dire qu'il ne devrait pas faire.
Et là, là. Ça veut dire que toutes les mitzvot qui sont faites en dehors de la terre d'Israël, ce ne sont que des souvenirs. Ce ne sont que des balises. Ça s'appelle des tzionim, des notes pour ne pas oublier. Mais là, aujourd'hui, quand vous êtes là, c'est pour ça que je vous ai dit que vous avez fait la chose la plus grande de votre vie. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez arriver à ce festin de Pourim cette année. Avec une joie immense, qui est complètement différente de tous les Pourim que tu as fait dans ta vie. C'est pas parce que tu as ouvert une bouteille de black, je sais pas quoi, et machin. Oh là là, le Pourim qu'on a fait, je te dis même pas, on était à Lyon. Mais j'en ai rien à faire de ton Lyon et de ton Paris.
Non, il n'y a pas du tout.
T'as rien compris, mon mec, t'as rien compris. Tu vas ouvrir une bouteille de vin d'ici. Ça, c'est ton vrai pourrime, c'est ton premier pourrime de la vie. Tu vas comprendre ce que ça veut dire. C'est différent. Parce que maintenant, tu as cette chose-là. C'est la première fois dans ta vie où tu as cette chose-là. Vos grands-parents, ils rêvaient d'avoir ce que vous avez aujourd'hui. Il y a encore des gens qui font les beaux, non, je sais pas, peut-être après ça, je vais partir, je vais revenir dans 2 ans. Tu joues avec quoi? Tu joues avec la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui te demande de venir t'installer ici. Et toi, tu fais ce que toi, ça te chante? Quel?
Ah, pourquoi maintenant, de nos jours, quand le peuple d'Israël commence à revenir sur sa terre, on ne peut pas faire le Hallel à Pourri?
Alors, en réalité, qu'est-ce que c'est que le Hallel de Pourri? Le vrai Hallel de Pourri,
la Megillah.
Non,
c'est que tout le monde soit.
C'est vrai que dans la Gemara, il y a marqué que la Megillah, c'est le Hallel. Mais qu'est-ce que c'est? Quand est-ce que tu fêtes ton Pourri d'Israël?
Non. Tout le monde est là.
C'est ça ton Pourri aujourd'hui.
Donc, mais c'est même dès qu'il y aura. Si tu veux marcher, on fera un peu.
C'est ça le Inyan de Pourri. Parce que c'est finalement ça qu'on voulait, c'est ça qu'on avait besoin. Quand est-ce qu'Amalek il apparaît? Quand est-ce qu'Amalek il apparaît dans l'histoire? Toujours, toujours. Quand est-ce qu'il apparaît?
Quand on doit
retourner.
Quand on est en retour vers la terre. C'est tout.
À la sortie d'Égypte.
À la sortie d'Égypte, pourquoi? Bader.
En chemin.
En chemin. Pour aller où? Ben en Israël. C'est là où il ne veut pas que tu rentres. Vous comprenez? C'est tellement clair. Et le Hari Akadosh, parce que j'ai pas le temps, on va finir maintenant. Je vous lis juste le Hari Akadosh, extraordinaire. Regardez ce qu'il dit le Harizal. Si on ne comprend pas ça, pas possible, tu peux pas. Dans les Kavanot de Pourim, à Rizal. Ikar et sono shel Haman. L'essentiel de ce qu'il voulait, Haman. Bekzerat hashmad shel Ayoudim. En faisant ce décret contre les Juifs. Aïta kedesh shelo ya'alou l'Eret Israël. Pour ne pas qu'ils montent en Israël. Veivnou shamet bet amigdash hacheni. Et qu'ils construisent pas le deuxième temple. Alors comment il le dit dans sa langue à lui? Qu'est-ce que c'est la Géoula pour le Harizal? Maintenant vous comprenez? C'est le retour vers la terre. C'est ça la Géoula. Et nous ne pourrons jamais construire le Bet Amigdash. Voilà ce que voulait Aman. Voilà ce que veulent tous les Amalekim. Avant et aujourd'hui.
Avaient conscience de la perte du...
Mais moi je parle à mes frères maintenant. Ceux qui m'entendent maintenant sur internet. C'est ça Pourim. C'est pas aller se goinfrer et boire pour être sous et dire j'ai passé un Pourim avec des potes, je te dis même pas. On a craqué 4 bouteilles de Maria. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire? T'as rien compris mon vieux. On te demande une seule chose. C'est de revenir sur ta terre. C'est ça la correction. Sinon, tu n'as rien compris. Tu restes encore serviteur là-bas. D'une autre peuple, d'un autre peuple, d'une autre race, d'une autre structure. C'est pas chez toi. Rabotai, c'est essentiel ce qu'on vient de voir aujourd'hui. N'oubliez jamais ça. Et c'est pour ça que la Megillah, elle commence avec un terme négatif, Vayehi. Pourquoi elle commence par Vayehi?
Parce que ça va être suivi d'une.
Parce qu'en réalité, ils vont rester là-bas.
On n'est pas sorti.
On n'est pas sorti. Et il nous dit Rachid,
c'est pour ça qu'on ne fait pas la lèvre.
Bien fait, mais ils ne sont pas sortis, ils sont restés là-bas. Même après tout ce qui s'est passé, tout le monde est resté. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as rien compris à l'histoire? Notre devoir aujourd'hui, c'est de corriger ça. Et Baruch Hashem, vous êtes là. Et c'est comme ça qu'on courait. Et